Bonjour frères et sœurs, pour le partage de la parole de Dieu aujourd'hui, j'ai eu sur le cœur de vous partager un texte du livre de Nahum au chapitre 2, les versets 1 et 2. Nahum, chapitre 2, les versets 1 et 2. Je trouve important et en même temps encourageant de parcourir la parole de Dieu dans la totalité. Nous sommes souvent dans la réflexion, dans la lecture du Nouveau Testament, des psaumes, et parfois on peut malheureusement négliger certains livres qui peuvent nous sembler loin de notre réalité, mais pour autant, quand on s'y arrête un petit coup, on voit que cette parole, elle est toujours actuelle. Et c'est pour cela que je vous invite avec moi dans cette lecture. Voici, sur les montagnes, les pieds du messager qui annonce la paix. Célèbre tes fêtes, Judas. Accomplis tes vœux, car le méchant ne passera plus au milieu de toi, il est entièrement exterminé. Et le verset 2 nous dit, le destructeur marche contre toi. Garde la forteresse, veille sur la route, affermis tes reins, recueille toute ta force. À la lecture de ce texte, nous sommes invités à nous réjouir de l'arrivée du messager de paix. Et en effet, le prophète signale à Jérusalem un message qui arrive d'Assyrie par les montagnes du nord. On ne sait pas encore quel message il apporte, ce messager, mais à son allure, on devine que ce sont de bonnes nouvelles. Donc, le salut de Juda, mais aussi la ruine de son oppresseur. Dans le livre de Ésaïe, au chapitre 52, les versets 7 à 10, il est encore question du messager. Ésaïe, chapitre 52, versets 7 à 10. Qu'ils sont beaux sur les montagnes les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix, de celui qui apporte de bonnes nouvelles et qui publie le salut, de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. La voix de tes sentinelles retentit. Elles élèvent la voix. Elles poussent ensemble des cris d'allégresse, car de leurs propres yeux, elles voient que l'Éternel ramène Sion. Éclatez ensemble en cris de joie, ruines de Jérusalem, car l'Éternel console son peuple. Il rachète Jérusalem. L'Éternel découvre le bras de sa sainteté aux yeux de toutes les nations. Et toutes les extrémités de la terre verront le salut de notre Dieu. Amen. Ce message nous donne de l'espérance et un baume au cœur. Et ce message à lui seul permet de garder courage, même face aux derniers événements. Mais ne faisons pas cette erreur de prendre du message que la partie positive, que la partie encourageante, et d'oublier que un combat, on entraîne toujours un autre, puisque le combat n'est pas encore terminé. Donc nous sommes et nous demeurons toujours dans une bataille spirituelle dans laquelle nous sommes invités à être attentifs. Donc faisons attention à ces messages positivistes qui trouvent, aussi on trouve dans certains livres ou sur Internet, et dont beaucoup de chrétiens se sont laissés prendre au piège en se laissant attirer dans une doctrine déviante et mensongère. Certains pourraient se dire alors, est-ce que la parole de Dieu dit le faux? Certainement pas. Mais regardons bien la suite de notre texte. Dans la parole de Dieu nous est dit que l'ennemi a été vaincu sur le bois de la croix par Jésus-Christ. Et cela est et reste une vérité fondamentale. La défaite d'un ennemi est une bonne nouvelle, certes, mais l'annonce de la venue du Sauveur est une plus grande nouvelle encore. Le peuple de Dieu est invité à ne pas baisser la garde. Entre le verset 1 et le verset 2 du texte de Nahum que nous avons lu, nous voyons une différence. Le premier verset donne ce message d'espérance qui est nécessaire, certes. Et Dieu soit béni, parce que quand le peuple de Dieu fait et marche avec Dieu, voit la victoire, voit aussi la réussite, le relèvement, voit de quelle manière Dieu permet au peuple de se relever et de avancer. Néanmoins, verset 2, donc pas beaucoup de distance, texte très rattaché. Maintenant, texte rattaché, ça ne veut pas dire que l'accomplissement est immédiat. Parfois, entre un verset et un autre, il y a un temps qui peut être plus ou moins lent. Mais néanmoins, Dieu, quand il nous parle, il nous invite aussi à prendre conscience de la démarche et de la marche qui demeure encore à accomplir. De cette manière, pour nous, il est important de ne pas nous endormir, pas nous arrêter, pas nous dire « voilà, on a remporté un combat, tout va bien ». Non, la lutte continue. D'ailleurs, au verset 2, il est question du destructeur qui marche contre toi. Et le prophète Nahum, qui jusque-là parle calmement, avec dignité, change brusquement, on pourrait dire, de temps et devient tout excité à cause des images, de la vision qu'il reçoit de l'Éternel et de l'émotion qu'elle produit en lui. Il décrit avec vivacité le siège de Ninive et les horreurs qui l'accompagnent, la cruauté et les luttes. Son langage devient certainement saccadé et donne aussi à nous qui le lisons le sentiment d'être en pleine bataille. Mais le prophète veut et voit d'abord les armées affluer vers Ninive, puis l'assaut et enfin la prise de la ville et sa destruction. Dans une autre version biblique, le verset 2 de Nahum est traduit de cette manière. Celui qui va te disperser s'avance contre toi, Ninive. Garde ta forteresse, surveille tes chemins et rassemble ton énergie, affermis bien tes forces. Dieu s'adresse à Ninive comme s'il s'agissait d'une personne et l'avertit du siège qui ne va pas tarder à s'accomplir. Le mot pour « s'avance » est un terme militaire qui signifie « monte contre toi ». Il vient t'attaquer. Et Nahum utilise le temps présent pour exprimer cette attaque à venir et donc elle est premièrement absolument certaine, mais inclut aussi quatre positions, je dirais quatre ordres de la part de Dieu qui sont adressés à Ninive, mais qui sont adressés à chaque enfant de Dieu. On voit ensemble les quatre ordres. Garde ta forteresse, surveille tes chemins, rassemble ton énergie et affermis tes forces. Le premier ordre qui est donné, garde la forteresse, nous fait bien comprendre, ou en tous les cas associer à l'image de la forteresse, l'Église. Garder, conserver, être un gardien, être celui qui préserve, qui protège, qui garantit, qui veille, qui observe, qui soigne, qui assure. Certes, c'est la responsabilité du pasteur, mais pas que du pasteur. Chacun d'entre nous, nous sommes appelés à veiller, à prier et à garder notre cœur attaché à Christ, à préserver, mais aussi à garder, à protéger l'Église des attaques, des dangers de l'ennemi, à tenir, observer et garder avec fidélité la relation, la communion fraternelle, à être ferme face à l'attaque de l'ennemi, mais aussi aux fausses doctrines qui pourraient essayer de s'introduire dans l'Église. On est appelé à veiller, à être des gardiens. L'Église, cette forteresse, est l'œuvre de Christ. Et cette œuvre est attaquée par l'ennemi avec tous les moyens possibles. Et il y a des moyens qui sont extérieurs. Et je dirais, ces moyens extérieurs, on pourrait les visualiser de deux manières. Les moyens visibles, dont Romains chapitre 8, verset 35 nous parle, Romains chapitre 8, verset 35, « Qui nous séparera de l'amour de Christ ? Serait-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, pardon, ou l'épée. Et après, il y a les attaques invisibles. Et c'est Éphésiens 6,12 qui nous en parle, qui nous dit « Car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Si nous avons bien saisi quelles sont les attaques extérieures, néanmoins, faisons attention aussi à ce qui peut attaquer depuis l'intérieur. Première chose, la sagesse de ce monde. Je vous cite des versets sans forcément en faire la lecture, mais je vous invite à le faire tranquillement après ce temps de message. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 18. Faisons attention à la sagesse du monde qui cherche à s'introduire dans l'Église et appliquer une sagesse qui n'a rien à voir avec la sagesse spirituelle auquel Dieu nous appelle et lequel Dieu veut aussi que nous puissions chercher auprès de lui la source parce que c'est lui qui est la sagesse. Faisons attention aussi aux conflits entre chrétiens qui parfois sont amenés devant la justice de ce monde. 1 Corinthiens chapitre 6 verset 5. Faisons attention aux divisions. 1 Corinthiens chapitre 11 verset 18. Faisons attention aux troubles et aux comportements permissivistes qui nous sont aussi cités en Galates, chapitre 5, verset 12. Faisons attention après à toute cette, je dirais, esprit du monde qui voudrait s'introduire dans l'Église pour amener à l'Église à vivre la foi autrement. Et je parle de ce texte de Colossiens, chapitre 3, verset 5 à 9. Colossiens 3, 5 à 9, je vous rappelle et je nous rappelle que ce texte n'est pas que pour des personnes qui sont à l'extérieur de l'Église, mais ce message est pour l'Église. Faites attention à l'impudicité, à l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité qui est une idolâtrie, la colère, l'animosité, la méchanceté, les calomnies, les paroles déshonnêtes, les mensonges et l'œuvre du vieil homme. Ce texte s'adresse à des chrétiens. Ce texte s'annonce comme un avertissement à des pièges qui pourraient tenter de s'introduire et de attaquer, je dirais, l'Église depuis l'intérieur. Attention à ne pas se tromper d'ennemi et attention à ne pas entreprendre des combats qui nous ne concernent pas. Parfois, on a tellement envie de bien faire qu'on essaye d'être les juges de tout et de n'importe quoi. Gardons notre cœur dans la paix. Soyons, nous aussi, des messagers de paix, mais néanmoins, des hommes et des femmes avertis quant au rôle qu'ils ont devant Dieu, mais aussi à leur propre responsabilité sur leur engagement et sur le respect de l'ensemble de la parole de Dieu. Deuxième ordre qui est donné, veille sur la route. Veille sur ton propre chemin. Veiller est synonyme de sentinelle. Veut dire donc veiller, être en attente, voir, regarder, épier, être gardien. Porter le regard, être prophète dans le sens d'être quelqu'un à l'écoute de Dieu, quelqu'un qui partage le message de la parole de Dieu, puisque cette parole, elle nous est donnée pour être communiquée au monde, pour être témoignée à ceux qui nous entourent. route. La route est ce chemin, ce sentier. C'est ce chemin de voyage dans lequel nous sommes amenés à marcher. La route est aussi synonyme de direction. Je dirais aussi de manière, d'habitude, de voie, d'entreprise. La route, c'est aussi le cours de la vie. La route peut être aussi synonyme de notre caractère moral. Et il reste clair, et je souhaite le rappeler, que le chrétien ne peut pas emprunter les mêmes chemins et poursuivre les mêmes directions que ceux de ce monde. Je pense que c'est important de le rappeler. On ne peut pas imaginer un instant de pouvoir marcher avec un pied dans le monde et avec un pied en Christ. Forcément, ces deux chemins s'écartent. Et de quel côté mettrons-nous nos deux pieds? On ne peut pas être avec un cœur partagé. On ne peut pas avoir deux maîtres. On sait ce que la parole de Dieu nous dit dans ce sens. Donc, veillons. Veillons sur notre propre chemin. Avant de facilement veiller au chemin des autres. Gardons déjà où et dans quelle direction sommes-nous en train d'avancer. Affermis terrain. Être ferme, être résolu dans sa vie chrétienne. Au mot affermi, on trouve ces synonymes fort, force, fortifié, saisir, augmenter, presser. Affermir, ça veut dire aussi presser, endurcir, retenir, soutenir. Affermir, c'est aussi question de courage, c'est question de se garder, voire même de s'obstiner dans la bonne direction, j'espère, pour chacun. C'est question d'affermir, d'aider, de tenir, de s'appuyer vigoureusement. Il est question de fortifier, d'être fort, ou de devenir fort, d'être courageux, ou de demander à Dieu aussi du courage, d'être ferme en Christ, d'être résolu, être vaillant. Il est question aussi de presser, d'accélérer. Et je crois que le temps qui est là devant nous, nous presse. Nous presse à mettre tout en œuvre. Et nous montre aussi que le temps s'accélère, le retour de Christ est proche. Et nous n'avons pas à rester tranquillement endormis sur un bas-côté, mais veillons sur notre chemin maintenant. Faisons attention à ne pas prendre de mauvaises directions et de ne pas comprendre les choses dans le mauvais sens. Il est question pour nous de nous fortifier, de nous soutenir, de nous encourager. Il est question aussi pour nous d'avancer et de nous fortifier en Christ. C'est lui qui peut en réalité nous rendre forts. Et ô combien, frères et sœurs, nous avons besoin de nous animer du courage de Jésus-Christ. Ce même courage dont il a fait preuve dans tout ce qu'il a accompli par obéissance au Père. Le courage de quitter son trône dans le ciel pour venir parmi les hommes. Le courage de marcher même face à des hommes et des femmes qui se moquaient de lui. Le courage de continuer à prêcher la vérité même face aux phrases qui pouvaient être balancées par les religieux, les paroles qui pouvaient être données par les uns et les autres, le mépris devant lequel il s'est retrouvé. Et pourtant, courage. Courage d'aller jusqu'à la croix. Courage de donner sa vie pour nous. Courage d'accomplir tout jusqu'au bout, au point même de pardonner. Courage. Ce même courage est celui dont nous avons tous besoin. Ce même courage, nous pouvons le trouver en personne d'autre qu'en Jésus-Christ. Il est question pour nous d'avancer. Il est question pour nous de compter sur le secours de Dieu. Le troisième avertissement, c'est « recueille toute ta force ». À quelque part, c'est un encouragement, mais aussi même un mot d'ordre. Sois fidèle jusqu'au bout. Recueille. Affermis. Décide. Hâte-toi. Sois solide. Fortifie-toi. Fais un choix. Toutes des choses qui nous invitent à une responsabilité, à une action personnelle. On est appelé à assurer, à être déterminé en Christ et de laisser Christ agir dans notre vie, certes, mais en nous accrochant de tout notre cœur à sa parole, de force personnelle et par nos propres forces, nous n'arrivons à rien. Nous serions très rapidement balayés. Mais celui qui recueille toutes ses forces et qui place son cœur en Christ, en voulant et en désirant être fidèle jusqu'au bout, y verra aussi le secours de Dieu. Le mot « force » vient d'un mot dont la racine veut dire « être ferme ». Il est question de garder la forteresse. Prendre soin de ne pas être de scandale, mais de bons témoignages. Il est question de veiller sur la route, donc marcher d'une manière digne de ce Christ glorieux, merveilleux. Il est question d'affermir ses reins, tenir ferme en toutes circonstances, à l'exemple de Christ lui-même, comme je disais tout à l'heure, face à la mort de la croix. Je pense qu'il est important de nous rappeler que la croix, c'était une mort infâme. Pas seulement par la violence, mais par l'image que la croix envoyait, le message qu'elle donnait. Et celui qui était condamné à la croix était rattaché à ce message terrible, horrible, humiliant. Et Christ a accepté de prendre cette place alors qu'il n'était pas la sienne, mais la nôtre, la mienne, la vôtre. Chacun d'entre nous, nous avions une croix qui portait notre nom et qui nous attendait. Cette croix était véritablement la croix qui était juste pour nous, à cause de nos péchés. Et lui, il a pris notre place à cette croix. Et c'est pour nous qu'il est mort, pour nous offrir la vie éternelle, pour que nous ne soyons pas, nous, mis à cette mort ignoble, indigne. Si ce n'est pas de l'amour, ceci, c'est quoi ? Alors, si nous sommes invités à affermir nos reins, ça veut dire tenir ferme en toutes circonstances à l'exemple de Christ, faisons-le. Recueillons nos forces, plaçons nos regards, notre foi et aussi nos priorités dans le Seigneur et dans le royaume des cieux. J'aimerais terminer ce temps de méditation avec encore un texte qui se trouve en 2 Timothée, au chapitre 2, les versets 1 au verset 7. 2 Timothée, chapitre 2, versets 1 à 7. L'apôtre Paul nous encourage dans cette dimension de la vie chrétienne. Il nous encourage à prendre position et ces quatre positions font partie intégrante de la vie chrétienne. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir le fruit. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Amen. Frères et sœurs, prenons courage, gardons nos yeux fixés sur Christ. N'oublions pas que si, par la grâce de Dieu, nous ressortons d'une situation bien particulière dans laquelle beaucoup ont été touchés, n'oublions pas que ce message n'est pas quelque chose qui concernait que certains. Mais le secours de Dieu qui vient et qui permet aussi que notre nation se relève nous invite chacun d'entre nous quand même à rester en éveil. Alors s'il vous plaît, gardez la forteresse. Veillez sur la route. Affermissez vos reins. Et recueillez toutes vos forces. Que Dieu vous bénisse.